après l'inauguration du pavillon d'art québécois canadien Claire et Marc Bourgis il y a quelques années. Voilà l'ajout d'un cinquième pavillon dont l'inauguration est aujourd'hui même, ce 4 novembre. Donc, un nouveau pavillon qui fait suite à un concours ayant eu lieu en 2013. Les grands gagnants de ce concours d'architecture en 2013, ce fut le consortium Atelier TAG et Jaudoin Lamarre Pratt Architecte. Et devant moi, un des représentants de Jaudoin Lamarre Pratt Architecte, Nicolas Rangé. Bienvenue.
Bonjour, plaisir.
Si vous nous présentiez un petit peu avant les caractéristiques, après ça, j'aurais d'autres questions sur l'histoire de ce pavillon.
D'accord. Alors, c'est comme vous le disiez, c'est le cinquième pavillon du Musée des Beaux-Arts de Montréal qui a été lancé sous forme d'un concours d'architecture suite au don de la famille Ornstein, dont vous avez entendu plus tôt aujourd'hui, donc un merveilleux don. Le gouvernement du Québec a décidé d'investir pour construire un écrin pour cette collection et pour également d'autres œuvres du Musée des Beaux-Arts.
Oui, parce qu'effectivement, c'est un pavillon qui va recevoir une centaine d'œuvres du couple maintenant décédé, Michael et Renata Ornstein, mais c'est un pavillon aussi qui va être consacré à l'art international et à l'éducation.
Exactement. Les étages inférieurs sont consacrés justement à recevoir des groupes d'enfants, des groupes d'étudiants pour venir leur ouvrir les portes du musée. Déjà, le musée auparavant avait une mission éducative importante, mais donc va se trouver doublé et peut-être même plus au niveau de la capacité d'accueil de ces groupes scolaires, donc qui vont pouvoir avoir accès directement dans des locaux qui sont adaptés dans les étages inférieurs du bâtiment ici et donc avec des salles aménagées, ouvertes à tout le public aux étages supérieurs.
Et vous aviez tout un mandat comme consortium de travailler à créer un bâtiment pour le redéploiement d'œuvres du couple Michael et Renata Ornstein et bien sûr des œuvres d'art au niveau international, le maître ancien au niveau international.
Oui, effectivement. Donc le projet, comme je disais, il s'est déroulé à partir d'un concours d'architecture. Donc ces données nous sont transmises dès le début du projet. Donc le type de salle qui est désirée, un peu une organisation générale au niveau de la philosophie, de la scénographie qui est souhaitée.
Quelle était la commande au départ de la part du Musée des Beaux-Arts de Montréal?
En fait, il y avait une volonté d'avoir des salles qui étaient très flexibles, donc au niveau de permettre un maximum de types d'installations à l'intérieur des différents étages, mais également de créer un musée du 21e siècle. Donc, de renouveler...
Tout un mandat.
Tout un mandat, effectivement. Donc, de tenter de redéfinir qu'est-ce que c'est le musée actuellement dans la vie des citoyens, dans la vie du public.
Et donc, vous aviez des contraintes, c'est-à-dire de vous intégrer à un secteur. Hein?
Absolument. Le bâtiment dans lequel on se situe, donc, est au sud du musée existant. Et donc, deux petites maisons étaient présentes sur le site et donc le nouveau bâtiment prend la place de ces deux maisons, donc devait venir s'inscrire effectivement à la jonction du musée existant et d'un quartier plus résidentiel du côté sud.
Nous n'avons pas entendu parler d'obstacles à la construction malgré ces deux bâtiments, donc ça s'est bien déroulé.
Oui, je pense que le concept architectural qui a été déposé, justement, on va y arriver un peu plus tard, mais a une façon de s'articuler qui respecte autant l'échelle du musée lui-même, qui est une très grande institution, mais également les bâtiments adjacents de résidentiels. Donc, la façon d'articuler les deux volumes permet justement cet arrimage-là de façon assez savante, assez sophistiquée. Et je pense que c'est un des éléments qui a plu, effectivement, au niveau du projet que nous avons proposé.
Oui, d'accord. Et félicitations, hein, ça s'est accepté sans esquisse au départ, alors...
Bien, en fait, c'est un concours qui a eu lieu en deux étapes. Et la deuxième étape, trois bureaux d'architectes, trois firmes ou consortiums ont été sélectionnés et ont proposé trois esquisses différentes pour le projet dans lequel on se situe actuellement. Et donc, suite à l'analyse et la délibération d'un jury, c'est le projet de notre consortium qui a été sélectionné. Donc, ils avaient le choix donc, entre différentes propositions. Et donc, bien, ils ont choisi la nôtre et on en est très heureux, nécessairement.
Félicitations. Maintenant, si vous nous parliez un petit peu des... On vient de parler un peu de l'historique, du mandat, qui est de tout un redéploiement à faire ici. Il manquait d'espace, effectivement, malgré quatre pavillons, malgré le complexe muséal, l'importance. Et maintenant, si vous nous présentiez les principales caractéristiques de ce nouveau bâtiment orienté vers l'avenir, vers le futur.
En architecture, on appelle ça le programme. Donc, la commande, j'aimerais dire, était relativement simple quand même. Au niveau inférieur, comme je le mentionnais, il y a un espace d'accueil pour les groupes d'étudiants, donc qui se retrouvent dans la partie en sous-sol du bâtiment, mais qui est ouverte, qui communique avec les autres étages, et donc un lien qui se situe également à ce niveau vers les installations existantes du musée. Le rez-de-chaussée est un espace, un salon qui permet justement au public, un espace flexible qui permet de recevoir le public, et également des ateliers de création qui sont à l'arrière du bâtiment, donc un espace flexible qui peut se compartimenter pour recevoir des groupes et faire un enseignement, faire de l'art-thérapie, qui était également une des demandes du musée pour de permettre d'accueillir ces groupes de personnes. Et les étages supérieurs, donc quatre étages de galeries superposés, donc qui donnait comme je mentionnais, le plus grand espace possible, le plus libre possible structurellement pour permettre différentes configurations au niveau des installations d'œuvres d'art.
Oui, d'accord. Parce que vous aviez, j'imagine, à tenir compte, dans cet espace le plus libre possible, de vraiment un espace libre pour que ça puisse aménager toute une scénographie. Avez-vous travaillé en collaboration avec les scénographes?
Notre mandat, à nous, était vraiment de fournir l'écrin. La scénographie a fait partie d'un mandat qui était complètement séparé, qui est venu par la suite. Donc, je vous dirais que notre travail, c'est vraiment plus de fournir, justement, comme je mentionnais, un écrin qui est très flexible, qui va permettre au bâtiment de vivre pendant les 100 prochaines années, et donc pas de faire un bâtiment là, qui est complètement articulé à partir des collections qui sont à l'intérieur. Comme on sait, les installations changent au fil du temps.
Donc, libre, assez libre pour pouvoir modifier les panneaux, la scénographie à souhait.
Exactement, exactement. Donc, le volume des salles est donc relativement grand et donc vient être partitionné par des cloisons qui ne sont pas structurelles et qui peuvent se démolir et qui peuvent se réaménager au gré des installations et au gré des expositions qui vont prendre place.
Est-ce que les cloisons ont été conçues par vous, par le scénographe?
C'est le scénographe qui fait cette installation par la suite, oui.
Merci de cette précision, Geneviève.
Ouais. Une petite question. Est-ce que chaque étage est disposé de la même façon et constitué de la même façon au niveau de l'espace?
Au niveau de l'espace, les étages sont légèrement différents. On a certaines contraintes au niveau du site. Donc, vis-à-vis des bâtiments qui sont au sud, on a les étages inférieurs occupent, ils vont jusqu'à la limite sud du site, mais nous devions garder une ruelle. C'est une contrainte urbanistique. L'accès donc à la ruelle derrière la rue Bishop. Donc, il y a un passage qui est conservé au rez-de-chaussée et également qui donne accès à des éléments techniques du bâtiment existant. L'étage, le deuxième étage est beaucoup plus large, donc vient occuper la pleine surface au niveau du site. Le troisième étage est légèrement en retrait, encore là, pour venir s'intégrer au bâtiment existant du côté sud. Et ensuite, donc, les trois autres étages supérieurs sont similaires, donc, au niveau de la configuration. Le dernier étage s'inscrit dans un parcours. Justement, c'était l'idée fédératrice du concours de venir créer des espaces, comme on sait, des espaces fermés, nécessairement pour un contrôle de la lumière au niveau des salles muséales.
Mais oui, la lumière, justement, est peut-être limitée. Hein?
Exactement, pour la pérennité des œuvres. Donc, la lumière est très contrôlée. Mais, disons, l'idée principale de notre projet, c'était de venir créer un parcours en façade, l'escalier qu'on voit quand on arrive au niveau de la rue, donc une façade qui est très transparente.
C'est vraiment le cœur du bâtiment, hein? C'est l'escalier. Hein?
Exactement.
Le lien entre tous les étages.
Exactement.
Donc, c'est une période historique.
Oui, c'est un espace effectivement qui s'inscrit, je dirais, dans la continuité de la rue. C'est un bâtiment qui se voulait urbain. Plusieurs musées, je dirais, à travers les âges étaient relativement fermés sur eux-mêmes. Donc, l'idée qui a été avancée avec ce projet-ci, c'est de créer un musée qui est ouvert justement sur la ville, sur le public, et de créer des échanges le plus possible avec les interactions de la rue et avec la ville de Montréal en entier, par ricochet.
Et ça, c'est vraiment, écoutez, toute une réussite. Alors, on s'entretient d'ailleurs dans cet espace connecté à l'escalier et on a vu tout autour de nous. Alors, j'imagine que vous êtes fiers de cette réalisation.
Oui, bien, c'est une très belle réussite, effectivement. On est très heureux, mais je vous dirais que c'est un travail de longue haleine qui se fait avec énormément de collaborateurs, nécessairement.
Alors, quelles vues peuvent s'offrir au public?
Bien, donc, c'est ça. Ici, on est au dernier étage et, comme je disais, c'est le point culminant un peu de la visite. Donc, quand on termine le parcours avec l'escalier architectural qui est en façade, on arrive au dernier étage qui permet vraiment de comprendre, disons, l'emplacement du musée dans la ville. On a un contact avec le Mont-Royal, avec le Belvédère sur le Mont-Royal. Et également, du côté sud, on peut apercevoir le fleuve. Donc, on comprend l'échelle urbaine du projet à partir de cet étage-ci.
Et le souci d'intégration à l'environnement du musée. Et vous avez opté pour le bois, hein, qui est omniprésent. Des grandes portes de bois aussi.
Oui, effectivement, le choix des matériaux se voulait, comment dire, assez simple et assez limité, justement pour laisser le plus possible d'espace ou d'air aux œuvres qui vont être installées dans les salles. Donc, des matériaux nobles, du bois, du verre, du béton. Donc, des matériaux qui sont très, très simples, qui devraient bien vivre à travers les époques, qui ont également une très bonne durabilité là, au niveau de la résistance à l'usure du temps.
Tout à fait. Alors, et c'est très apaisant, ce recours au bois. Alors, ça nous permet vraiment de nous préparer à la contemplation des œuvres à l'intérieur. Ici, on parle d'un voile conçu pour mettre en valeur les volumes des deux corps qui le constituent en habillant l'ensemble d'un écran délicat. Qu'est-ce que vous souhaitez? Pouvez-vous nous préciser un peu plus qu'est-ce que ce voile dont il est question?
C'est un beau communiqué du musée, mais en termes simples, c'est donc, comme on mentionnait, c'est un volume de verre qu'on retrouve principalement au niveau de la rue, mais pour articuler donc les deux volumes et pour venir donner, on va dire, une perception différente au fil des heures de la journée. Donc, il y a un écran donc, qui est constitué de lamelles en façade qui est en superposition au niveau du verre et qui vient accrocher la lumière de façon différente au fur et à mesure des heures du jour. Donc, le soleil frappant du côté sud à certains temps de la journée et du côté ouest à certains autres moments. Donc, vient changer la perception du bâtiment. Et également, un jeu, donc quand on est au niveau du trottoir, donc quand on avance vers le bâtiment parallèle, donc on a une impression que le bâtiment est relativement opaque. Mais donc, quand on se retrouve face au bâtiment, on comprend toute la circulation intérieure. Donc, c'est un jeu
qui
également.
Qui est au contraire d'une transparence.
Exactement. Donc, c'est un jeu au niveau urbain. Et également, il y a des bénéfices au niveau du contrôle solaire. Donc, même si ce sont des espaces qui sont très vitrés, ces lamelles nous aident à venir contrôler la lumière naturelle au niveau des espaces publics.
Alors, vous avez tenu compte de plusieurs aspects. Tout a été mesuré, même la lumière. Et semble-t-il qu'il y a quelque chose de spécial en soirée avec cette lumière?
Bien, c'est certain qu'il y a un renversement de la perception du bâtiment. On sait que le jour, la lumière extérieure est tellement grande, on perçoit le verre souvent comme une masse sombre. Mais le soir, cette lecture-là vient s'inverser puisque les espaces intérieurs sont illuminés et la rue, donc, a une luminosité moindre. Alors, ça, il y a un effet de lanterne ou un effet là, vraiment signalétique au niveau de la rue et une inversion, comme je mentionnais, de la perception du bâtiment qui est très intéressante également puis qui amène un jeu au niveau des, encore là, de l'œil du public et des passants sur le trottoir. Donc, un changement de perception complètement au fil des heures du jour.
Pour ce qui est du bâtiment, le spectateur donc aura deux expériences bien différentes en journée et en soirée. Merci. Voulez-vous ajouter quelque chose d'autre sur la structure, les salles, les différents aspects spécifiques à l'architecture? Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments d'importance? Vous avez votre spécifique.
Oui, bien, je vous dirais, l'élément particulier qu'on va remarquer quand on va arriver au bâtiment près de la rue, c'est justement c'est le désaxement dont on parlait au niveau de la façade principale, donc qui est composé de deux volumes. Le volume bas, lui, qui s'aligne avec les façades existantes au niveau de la hauteur et au niveau en plan, donc qui sont en parallèle. Et le volume haut, donc le public peut se poser la question pourquoi le volume du haut a été désaxé. C'est justement pour signifier, à un certain point, le lien avec l'échelle de la ville. Le volume a été voter justement pour donner accès aux vues sur le Mont-Royal et aux vues vers le fleuve. Et on se retrouve également avec le volume haut en porte-à-faux au-dessus de la rue. Donc, ça permet encore là d'avoir une vue directe au-dessus du trottoir et encore là de créer un dialogue entre les passants sur le trottoir et les gens qui se retrouvent à l'intérieur du bâtiment. Donc, qui était, je pense, une des idées les plus importantes au niveau du bâtiment, de créer ce dialogue entre les habitants de la rue et les gens du musée, donc d'avoir une perméabilité la plus grande possible.
Effectivement, alors c'était de la plus grande importance et je croirais que la mission a été accomplie tout à fait. Maintenant, oui, il y a les caractéristiques du bâtiment. On peut les voir en visitant l'étage et c'est un aspect de la plus haute importance. Mais je souhaiterais vous demander comment ça s'est passé, le processus avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Comment est-ce qu'une firme d'architectes peut vivre ce processus-là? Comment ça se déroule, finalement, la réalisation d'un bâtiment d'une telle envergure et le processus de réalisation avec le musée?
Comme je mentionnais, le point de départ est vraiment le concours d'architecture. Mais comment, le musée lui-même...
Mais en cours de réalisation, comment ça s'est passé?
Le musée lui-même étant quand même un très grand propriétaire institutionnel, donc ils ont des équipes très compétentes à l'interne pour faciliter la communication, pour amener des... répondre aux questions justement qui peuvent se soulever en cours de route. Donc je dirais que c'est un travail de collaboration qui est fait dès le départ et les projets réussis, je vous dirais, ce sont toujours le fruit de deux... Effectivement, il y a un peu de travail de conception qui est important, mais ça prend également un client qui comprend bien et qui répond de façon claire aux questions qui sont formulées, ce qui permet un échange bénéfique pour les deux parties.
Est-ce que tout le processus s'est déroulé tel que prévu?
Oui, effectivement, on a été très heureux. C'est un projet qu'on appelle en fast track dans le jargon du milieu. Donc, la construction s'est débutée avant que les plans soient terminés. Donc, il y avait un enjeu supplémentaire parce que justement, la date d'ouverture était très, très importante pour le musée.
Voilà, il y avait toute une pression.
Bien, ça fait partie des plusieurs projets. On a maintenant ces contraintes de temps-là. Donc, c'est des éléments où on apprend à naviguer, à travers lesquels on sait bien naviguer avec le temps. Mais je vous dirais que les enjeux, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'imprévu au niveau de la construction elle-même, donc qui a suivi son cours jusqu'à l'ouverture aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Moi, c'est juste une petite question. Le projet de départ, vous aviez une vision claire de ce que le bâtiment devait avoir l'air. Est-ce que à l'arrivée, c'est identique ou il y a eu des changements entre-temps?
Je vous dirais que, mis à part la question, ils ont ajouté un étage en cours de route à travers le processus.
C'est pas rien.
Ce qui est pas rien. Mais de façon générale, je dirais que le concept initial a été respecté en presque totalité. C'est certain qu'on ne peut pas tout concevoir lors de l'étape du concours. On découvre certaines choses en cours de route. Il y a des adaptations qui sont à faire. Mais le concept de base a été reconduit en totalité.
Donc, une autre réussite, ben, ça a été la planification hein, qui s'est bien faite et qui s'est réalisée à peu près tel que prévu, avoir un étage supplémentaire. En terminant, si vous nous présentiez un petit peu l'expertise de votre firme d'architecte.
Bien, le projet qui a réalisé le Pavillon 5, donc c'est un consortium qui consiste de l'équipe de l'atelier TAG et de Jodoin Lamarprat Architecte. Donc moi, je suis associé chez Jodoin Lamarprat Architecte. Et notre firme, donc nous, se spécialise dans les, je veux dire, dans les bâtiments institutionnels depuis près de 60 ans bientôt. Alors, le projet ici, oui, est un projet de très grande envergure, de très grande visibilité donc, et d'une très grande importance. Mais notre firme a réalisé par le passé des projets hospitaliers d'envergure également, des centres de recherche. Et donc, ce sont des contraintes et des défis à travers lesquels on est habitué de naviguer. Et donc, ce qui permet effectivement de baliser le processus, de bien comprendre les enjeux au niveau du client et d'arriver comme ici là, avec des projets qui sont contrôlés, qui répondent au budget et à l'échéance qui avait été fixée initialement.
Alors, vraiment, M. Nicolas Ranger, donc architecte associé principal, hein, la firme Jodoin Lamarprat Architecte. Encore félicitations pour cette réalisation d'envergure et dont on peut être fier aujourd'hui. Alors, qui permet tout un redéploiement d'une collection qui ne pouvait être vraiment appréciée par le public jusqu'à présent. Alors, ça va pouvoir l'aider. J'imagine que vous êtes probablement un grand amateur d'art visuel ou d'histoire de l'art. Hein?
Absolument. Et également, j'ai trois enfants, donc mes enfants venaient déjà aux ateliers. Ça va faire plaisir de poursuivre notre implication et notre...
Oui, vous allez prendre plaisir à venir visiter les œuvres dans votre bâtiment. Merci beaucoup pour nous avoir présenté ce cinquième pavillon, hein, le pavillon pour la paix amicale et Renata Hornstein, sur 6 étages d'architecture, hein, vous l'avez bien décrit, lumineuse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.